Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous partons au Maroc, à Tahiti, en Belgique et en Sardaigne, avec des confidences d'une rare intensité. Confidence donc avec le grand écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun qui publie un récit troublant. Il y a 50 ans, il a subi un service militaire très particulier au Maroc. Brimades, violences et humiliations ont duré 19 mois. Bonjour Tahar Ben Jelloun.
Bonjour Manuel.
Comment avez-vous attendu? Pourquoi surtout avez-vous attendu si longtemps pour raconter
cette
histoire?
C'était trop intime pour le mettre entre les mains du public. Maintenant que j'ai 70 ans, je peux raconter mes 20 ans.
Et vous avez toute la mémoire pour tous les détails.
C'est extraordinaire, ma mémoire est revenue, elle était très fraîche, et je me suis souvenu de tous les noms, de tous les lieux, de toutes les personnes, c'est extraordinaire.
Très bien, on va voir ça avec vous, cette punition, hein, parce que c'est le titre
c'est
de ce
punition,
récit.
Une vraie punition.
La punition de Tahar Ben Jelloun va vous faire froid dans le dos. Mais nous allons aussi vous faire rêver avec une large séquence consacrée à Tahiti, le groupe Veïteanié, dans notre studio pour deux titres acoustiques, un mini-concert exceptionnel qui ponctuera cette émission. Et nous parlerons d'un petit dictionnaire insolite de Tahiti avec l'auteur Rosanne Harris. L'écrivain belge Sébastien Ministru va quant à lui vous émouvoir avec une histoire perfide. Fils, roman d'apprentissage pas comme les autres, qui évoque illettrisme, prostitution, homosexualité, mais aussi tolérance.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et en cette période agitée pour le service public en Suisse concernant l'avenir de la RTS, en France, pour l'avenir de Radio France, nous sommes troublés et inquiets, on ne va pas vous le cacher. Cette émission n'est pas une tribune, je vous rassure. Pourtant, voir la réussite, la diversité, l'exemplarité de nos radios déstabilisées nous interroge. Les médias francophones publics forment rassemblés une force culturelle et éditoriale unique au monde qui porte haut et fort la francophonie. Alors plus que jamais, nous avons besoin de vous, de votre exigence de qualité, c'est important, et de votre fidélité partout, partout dans le monde francophone. Quatre libraires sont avec nous comme d'habitude en multiplex. Bonjour Marie-Noëlle Blé.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Raffin. Vous représentez le Canada au siège du formidable groupe Ici Radio-Canada. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose, installée dans notre studio de la RTS à Lausanne. En Belgique, on retrouve la plus belge des libraires belges, ou presque. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Ça va faire plaisir à vos collègues. Vous travaillez dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe et vous êtes dans nos studios de la célèbre RTBF que l'on connaît dans le monde entier. Et en France, on accueille depuis la Maison de la Radio à Paris, dans le plus beau studio de France Inter, le studio 621, une libraire d'Orléans cette semaine. Coup de projecteur sur une libraire française que vous ne connaissez sans doute pas encore, sauf si vous habitez à Orléans, ville chère à Jeanne d'Arc, par exemple.
Entre autres.
Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la librairie Les Temps Modernes, historique d'Orléans.
Librairie la plus ancienne d'Orléans, librairie familiale qu'a fondée ma mère en 1964, ouais. Avec un projet dont on tient toujours le cap, c'est-à-dire défendre la littérature, les littératures, et puis les vrais livres et l'édition de création.
D'accord. Et quand vous étiez beaucoup plus jeune, je crois que vous avez croisé Tahar Ben Jelloun dans cette librairie.
Mais oui.
Une signature, c'est ça?
Pour le livre pour lequel vous aviez eu le Goncourt en 1985, La Nuit Sacrée.
Voilà.
Exactement.
Vous vous souvenez de cette librairie, Tahar? Non, vous
en faites
tellement.
Peut-être pas.
Non, mais c'est le moment des photos,
Oui, c'est ça. On va chercher des photos. Bon, merci d'être avec nous, Sophie. Soyez la bienvenue dans cette émission. Bonjour, Veïteanié.
Bonjour.
Veïteanié, Teanini, Urai, Te Moana, c'est votre
Très
nom.
Bien.
Et ça. Luc Totterwitz.
Oui.
Soyez les bienvenus. Vous êtes un groupe tahitien. Vous avez sorti un premier album de 13 titres. Vous êtes notamment soutenu par Laurent Voulzy. Exceptionnellement, et pour la première fois dans cette émission, vous allez jouer dans les conditions du direct deux titres musicaux de ce programme, dont une petite surprise, on va pas trop en dire. Mais on commence toujours par une anecdote que je découvre en même temps que les auditeurs. Vous avez carte blanche et c'est une histoire tahitienne, je crois.
Oui. Alors en fait, la troisième scène que j'ai faite de ma vie, c'était sur la grande scène des Francofolies de La Rochelle.
Oui.
Parce qu'en fait, à Tahiti, en 2011, on a participé à un concours qui s'appelait 9 semaines et un jour, organisé dans toutes les Outre-mer, qui permettait aux gagnants de se produire sur la grande scène des Franco. Donc voilà, c'était ma troisième scène, c'était devant des milliers de personnes, alors que j'avais même pas encore joué dans des bars, où voilà, je passais mon temps à jouer dans mon canapé, dans ma chambre, toute seule.
Et vous êtes arrivée comme ça devant tout le monde?
Oui, c'était le saut de l'ange, là, ouais.
C'est ça qui vous a surpris?
Personnes.
Oui, 10 000 personnes. Et on ressent quoi devant 10 000 personnes, alors?
Eh bien, on a peur.
Oui. Surtout quand on sort de son canapé, c'est ça?
Impressionné, ouais. Très impressionné.
Veit et Annie est dans la librairie francophone cette semaine. Tahar Ben Jelloun est donc avec nous pour un récit très personnel qui vient de sortir chez Gallimard. La punition, c'est le titre, une punition qui va durer 19 mois. Le 16 juillet 1966, vous êtes convoqué à vous présenter le lendemain à côté de Meknès, dans un village où il n'y a que des militaires.
El Hajeb,
voilà.
S'appelle.
Qu'aviez-vous fait pour ça? Vous avez compris tout de suite ou pas?
Oui, oui, bien sûr, parce que j'étais prévenu un petit peu. J'avais participé à des manifestations en mars l'année d'avant, en 65. Mais surtout, j'étais responsable syndical étudiant dans la cellule de Tanger. Et ils avaient arrêté tous les étudiants qui avaient des responsabilités dans le syndicat, dont moi.
Alors quand vous arrivez dans ce camp militaire, vous ne savez pas quand vous en ressortirez. Votre frère qui vous accompagne a même le sentiment de vous abandonner. Il en pleure devant la porte du camp. Un militaire le rassure gentiment et dès que la porte se referme, on vous frappe dans le dos et puis on vous rase la tête. Et là, l'enfer commence.
À raser, c'est pas le mot, c'est tondre. Comme un agneau, on m'a tondu parce que j'avais les cheveux longs, ben, j'avais 20 ans. Ils ont rasé avec une lame un peu rouillée pour un peu faire mal. Oui. C'était 2h du matin. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et alors, le fait de ne pas savoir si on va un jour être libéré faisait partie de la maltraitance. Comme ça, on mettait un peu le doute et la folie dans la tête des gens.
Alors, le pire, ce n'est pas la nourriture toujours avariée quand on vous fait manger, ni l'insalubrité des sanitaires. On se retient même d'aller aux toilettes, hein, tellement c'est sale, c'est ce que vous racontez. Voilà. C'est ce qui vous attend sur le terrain. Il y a des entraînements comme ça, en pleine nature, et notamment des entraînements au combat, à balles réelles.
Alors, il y avait deux façons de nous maltraiter. La première, c'était par exemple de nous faire transporter des pierres très lourdes sur 5 km sur le dos, les déposer et reprendre d'autres pierres et les ramener de l'autre côté. Bon, ça c'est l'été quand il fait très chaud.
Oui, bien sûr.
Et l'hiver, quand il neige, alors là, on nous convoque à 4h du matin avec un tout petit t-shirt et un short, et des sandales, pas de chaussures, et de rester debout de 4h à 8h du matin. Et celui qui tombe reçoit un coup de bâton sur la tête. Donc ça, c'était la première façon de nous maltraiter. La deuxième, c'était de faire des manœuvres, mais malheureusement à balles réelles. Et avant de partir, il nous disait, nous avons, d'après la loi ou je ne sais plus, les habitudes, nous avons droit jusqu'à 3%
de mort,
oui,
de victimes.
Oui, de déchets, ouais. De victimes, voilà.
Mais pour vous, c'est 5%.
Oui.
Ils disent ça. On peut aller jusqu'à 5% pour vous.
Oui, oui, voilà. Bon, voilà.
Alors vos collègues n'y croient pas. Hein. Ils se disent, mais non, c'est des balles à blanc, c'est pour rigoler. Sauf qu'il y a des blessés, vraiment.
Il y a des blessés, oui, bien
et
sûr.
Et là, vous dites, non, c'est à balles réelles.
Il y a eu des morts, mais on ne les a pas vus. La seule chose qui s'est passée, c'est que le soir, le commandant Ababou, celui qui va faire le coup d'État de 71, nous avait tous réunis il nous a dit, on a fait des manœuvres, il y a eu des dégâts, c'est normal, mais personne n'est mort. Tout en disant que, bien sûr qu'il y a eu des morts, mais c'est-à-dire, officiellement, personne n'est mort.
Retenez ça, il n'y a pas eu de mort. Bon. Ouais. Humiliation, brimade, c'est une violence qui consiste, dites-vous, à vous déclasser. Vous écrivez, je suis en train de m'éloigner de moi. Il y a des jeunes qui se font violer par des officiers. Vous avez juste 20 ans et vous dites, je ne sais pas si un jour je sortirai de cet enfer. On va écouter la BO du roman Tahar Ben Jelloun. On vous a demandé de choisir la musique qui illustre le mieux votre livre et vous avez choisi Jean Ferrat.
Jean Ferrat.
Que serais-je sans toi?
Oui.
On écoute un extrait, vous nous expliquez. D'accord.
D'accord, ok.
Allons-y.
Que serais-je sans toi? Qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi? Qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? Parle de bonheur, a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis,
que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à...
Alors pourquoi Jean Ferrat, Tahar Ben Jelloun?
Jean Ferrat parce que c'était le chanteur que nous aimions, ma fiancée et moi. Et quand j'étais dans le camp loin donc de la femme que j'aimais, eh bien je me remémorais les chansons de Jean Ferrat et je me les chantais à moi-même. Et j'avais d'ailleurs un excellent souvenir de sa voix. Alors j'écoutais à moi tout seul. C'est incroyable l'imagination, ce qu'elle peut faire quand on est dans une situation d'épreuve et de répression. Ouais. Que serait-ce sans toi, c'était quand même la chanson qui allait m'amener vers autre chose. Ma fiancée ne va pas m'attendre, elle va partir avec quelqu'un d'autre. Oui. Et comme elle était belle et que tout le monde l'a tournée autour d'elle, elle a cédé, elle est partie avec quelqu'un d'autre.
Vous lui en voulez encore aujourd'hui, non?
Non.
Si, on a l'impression que oui.
C'est la vie, c'est la vie. Mais c'est pour ça que...
Ça fait 50 ans, t'as la peau.
Non, je lui en veux pas, bien sûr que non.
Mais en tout cas, vous êtes dans une révolte passive, Tahar Ben Jelloun. Vous résistez par la pensée, hein, vous venez de l'expliquer.
Tout à fait, oui.
Et par la culture, en imaginant des poèmes et en lisant le seul livre que vous envoie votre frère. Vous lui demandez le plus gros qui existe. Oui. Il vous envoie Ulysse de James Joyce.
En poche, c'était.
En poche, voilà. Et vous citez Albert Camus au début du roman. Alors, on peut penser évidemment à Albert Camus, à cet art de la révolte, parce que vous êtes dans cet esprit-là un peu. C'est un peu un livre qui ressemble à la pensée de Camus,
oui,
à la philosophie
tout à fait,
de Camus.
Tout à fait, parce que quand j'étais au lycée, on avait des bagarres entre les Sartriens et les Camusiens. Et moi, je défendais beaucoup Camus contre les Sartriens, tout en étant assez proche de Sartre. Pourquoi Camus? À cause de l'homme révolté, à cause de cette espèce de violence qu'il avait en lui, un homme qui avait souffert et qui avait fait des choses extraordinaires avec sa littérature.
On va laisser la place aux libraires, Tahar Ben Jelloun. Vous les connaissez, vous les adorez.
Moi, j'aime beaucoup les libraires.
Alors, on va voir si vous les aimez encore à la fin de leur.
Ils ont le droit réaction d'aimer ou de ne pas aimer, absolument.
La France, le Canada ou la Suisse, on commence par qui, Tahar Ben Jelloun?
Pas la France.
La France, avec Sophie Todescato.
Oui. Alors, c'est pas un livre dont on se dit c'est un bon livre, un mauvais livre, c'est un livre qui frappe tout de suite, c'est un livre dont on est captif parce que déjà il documente de manière très, très précise, très détaillée un épisode dont personnellement j'ignorais tout. Mais ce qu'il y a d'assez intéressant et d'assez surprenant, c'est l'écriture de ce livre. Au début du livre, j'ai trouvé que c'était une écriture, alors est-ce qu'on peut dire pauvre, est-ce qu'on peut dire aride, est-ce qu'on peut dire modeste, en tout cas très surprenante parce que des phrases très courtes, très économes. Et au fur et à mesure du livre, ce qui se passe, c'est que cette faiblesse devient une force et que, à la fin du livre, on a l'impression que ce récit, il a été écrit par le détenu Ben Jelloun jeune, qui est authentique, qui est juste.
Merci.
Ça a failli mal
non,
finir.
Non, non, mais non, mais moi, j'ai vu.
C'est nickel. Marie-Noëlle Blé, au Canada, êtes-vous d'accord?
Oh, je suis absolument d'accord. J'ai trouvé ce récit aussi prenant qu'éreintant, hein, et éreintant parce qu'on se retrouve vraiment fixé à la narration qui laisse aucun répit. L'attention est évidemment à son comble et puis souvent on peine à croire que c'est réellement arrivé. Et pour ma part, je suis restée sur le qui-vive tout le long, en espérant évidemment qu'une chose, la libération. C'est écrit dans une langue que j'ai trouvée, moi, sincère, sans phare et qui oblige évidemment le lecteur à une grande intimité, à une immense empathie avec le narrateur. C'est vraiment un récit instructif et porteur de très importantes réflexions.
Merci.
Il est satisfait. J'angoisse pour vous. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Normalement, je ne devrais pas. Je sais pas ce qui, qu'est-ce qui
calme,
se passe.
Calme, Emmanuel.
Calme-toi. Anecdore en Belgique, allez-y.
Oui, moi je suis pleine d'admiration. Je trouve que c'est vraiment un tour de force de faire face à des souvenirs aussi difficiles et d'en faire en fait un livre aussi puissant et aussi beau. Alors, moi la question que j'avais en tête en fermant le roman, c'est de savoir quelle est la réelle implication du roi Hassan II, parce que je trouve que vous restez un peu flou sur la question, comme si finalement ça importait peu, alors que moi j'avoue que ça me taraude, je me demande quelle est sa part de responsabilité, et est-ce qu'on a des réponses aujourd'hui, après 50 ans, à cette question?
Oui, il déléguait tout, il déléguait au général Oufkir pour ce qui est de l'armée, et à Basri plus tard, qui est le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui était en fait un Premier ministre bis, il déléguait, et lui, il voulait avoir la paix, il dit « débrouillez-vous ». Il a pas dit « faites ceci ou faites cela ». Et c'est une idée de général qui revenait d'Indochine, qui était le général Oufkir, et qui savait, d'ailleurs, les sous-officiers qui nous maltraitaient venaient tous d'Indochine, ils parlaient un français pathétique, et alors là, au début, on comprenait pas tout ce qu'il nous disait, alors « rassemblement », ça veut dire « rassemblement », enfin des trucs comme ça. Et c'était une façon de nous mettre face à des ignares et des brutes, parce que nous étions des intellectuels, des étudiants, des gens qui travaillaient avec le livre, avec la littérature, la philosophie. Il fallait écraser ça chez nous. Et Racine 2 était loin, il savait même pas que ça existait. Je pense qu'il était même pas au courant de ce qui nous arrivait.
On vous libère finalement au bout de 19 mois donc, mais vous avez du mal à vous réacclimater à la vie normale, Tahar Ben Jelloun. Vous dormez à même le sol et surtout vous vous questionnez sur votre réelle liberté. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
Il y avait beaucoup de confusion. Je devais absolument terminer ma licence de philo, donc j'avais quelques mois pour terminer ma licence. Et puis, j'étais préoccupé aussi par le chagrin et la tristesse de ma fiancée qui était partie. Donc, j'étais vraiment libéré, mais pas
entravé,
heureux.
Entravé.
Pas heureux.
Avez-vous été plus docile par la suite? Moins enclin à manifester ou à revendiquer des droits?
Alors, ensuite, j'ai fait autre chose. Ensuite, j'ai pris la plume. J'ai écrit énormément, beaucoup de choses. J'ai écrit des livres, des romans. Il y a un roman qui est né de ça, mais qui ne raconte pas ça, qui s'appelle Mohal Fou Mohal Sage, que j'ai publié en 78, qui est pour moi le roman qui accuse le plus le régime Hassan II, et parce qu'il part sur une scène de torture. Donc, à travers la littérature, mes prises de position médiatiques, j'avais une opposition plus réfléchie et plus argumentée.
Et plus efficace, du coup.
Je sais pas si c'était efficace. En tout cas, oui, probablement.
Merci Tahar Ben Jelloun. La punition est parue aux éditions Gallimard. Vous restez avec nous car vous êtes le grand témoin de l'émission aujourd'hui. Vous allez pouvoir commenter tout ce qui va se passer.
Je suis gâté, Emmanuel, c'est formidable.
Voilà, on va parler de Tahiti. On va demander à Vaïtaani, qui est avec nous, d'aller s'installer là juste derrière, de quitter casque et siège pour aller face au micro. On ouvre cette séquence donc sur Tahiti en musique avec Vaïtaani qui lui aussi nous accompagne tout au long de l'émission. Ils sont installés donc avec leurs instruments, un ukulélé, je vois une guitare. Voici un titre nommé Onu Itie, interprété en tahitien dans une version acoustique pour la librairie francophone Vaïtaani.
Arohi ya ho tu teme ae ho nui tie na ue e au puru na ue e aratai na ue e paruru e e ho nui Fano na te mulana uri uri No atu te mofifi Te ti e mera to finua ya poe No atu te are pure poe Te ti e mera to here ia ue Wafa ati Here oe, wapupu oe, whanura ma te hou. Wafa ati oe, wapu I here oe, wapupu oe, I honu. Wafa ati oe, wapu ihere oe.
Dans les studios de la librairie francophone avec un extrait de leur album et ce titre en version acoustique, On nous y tient. Merci à vous, venez nous rejoindre le temps de ce petit jingle.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Vous écoutez donc la librairie francophone et on parle de Tahiti cette semaine. Veiteani signifie « source du ciel ».
C'est ça, oui, c'est bien.
Et c'est votre prénom, hein, Veiteani.
C'est ça.
Voilà, c'est le nom du groupe aussi.
C'est très beau, la voix est magnifique.
Tarbenje Lenoir.
Ah, moi j'ai adoré la voix.
Merci.
Très très beau, oui.
Alors justement, vous avez chanté en tahitien. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson?
En fait, c'est une chanson qui parle d'une tortue qui voyage dans l'océan et qui protège sa famille. Et c'est une chanson, en fait, qui rend hommage à une personne qui m'était très chère, que je considérais un peu comme une deuxième grand-mère et qui nous a quittés. Et dans le taura, c'est-à-dire l'animal totem, était la tortue.
D'accord. Bon, vous écrivez tous vos textes, Veiteani. Vous parlez d'amour, de la vie sur ces îles du Pacifique, pleines de chaleur humaine, on va l'entendre, mais aussi de résistance. Et puis, les questions d'un peintre dans l'une des chansons, Paul Gauguin, sans doute.
Oui, c'est ça. En fait, dans deux chansons, on parle. Enfin, j'aborde le thème de Gauguin. Et dans l'une des chansons qui s'appelle le Apenimai, qui veut dire peins-moi, je me mets dans la place de l'un de ses modèles et je m'adresse à lui en lui disant, tu sais peindre mes courbes, mes yeux, ma poitrine, tout ça tu sais faire, mais tu ne sauras jamais peindre les couleurs de mon âme.
Oui. Vous écrivez, hein, en fait, dans ce texte, « Réceptacle de ta faim, nous, que pourtant tu ne comprends pas, avons participé à ta renommée, nous les femmes polynésiennes. »
Oui.
Il y a un petit peu de rancune, non, derrière ça? C'est compliqué, la figure de Gauguin à Tahiti.
Oui, c'est très, ambigu en fait. Gauguin, oui. Il est à la fois adoré pour sa peinture, pour son utilisation des couleurs, la texture de son œuvre, et en même temps détesté pour ses comportements un peu déviants.
Un peu déviant.
Oui. C'était un peu pédophile, oui.
Oui.
Mais à l'époque, peut-être que c'était courant, mais c'est aujourd'hui, on aurait dit pédophile, oui.
Carrément, oui. Exactement. Ouais. Alors Luc, vous accompagnez Veiteani, vous êtes avec elle, vous l'avez rencontrée non pas à Tahiti mais à Strasbourg.
Oui, je suis originaire d'Alsace.
Oui, c'est ça.
On s'est rencontrés à Strasbourg alors qu'elle faisait ses études d'anglais et moi j'y vivais depuis plusieurs années et voilà, on est un couple avant d'être un duo de musique.
Ouais, et vous avez fait le pont comme ça entre la métropole et Tahiti.
Oui.
Car vous fusionnez comme cela les genres, les influences. Vous l'influencez aussi avec vos origines alsaciennes, par exemple, sur le plan musical.
Je ne sais pas si c'est mes origines alsaciennes, mais en tout cas, c'est vraiment une musique métissée qu'on fait. Moi, je suis un grand passionné des musiques du monde entier. Et donc, j'aime tout ça, j'aime ce métissage. Et du coup, en allant en Polynésie, je me suis imprégné un peu de la culture là-bas. Mais dans notre musique, c'est vraiment un mélange et de couleurs et de plein de choses.
Vous dites que c'est de la folk polynésienne.
Voilà.
Vous avez inventé ça.
Ouais, une appellation tout sauf contrôlée. Hein.
Tout sauf contrôlée. Bon, vous restez avec nous, vous allez jouer à un autre titre. Une très très grosse surprise, restez à l'écoute, vous allez adorer Tara Benjeloun, vous allez vous évanouir quand vous allez entendre ça.
Très bien.
Continuons sur Tahiti.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Sur ce chant traditionnel, nous recevons Rosanne Harris. Bonjour Rosanne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez un petit livre sur Tahiti, Dictionnaire insolite de Tahiti aux éditions Cosmopol. On apprend plein de choses. Ce n'est pas forcément un compagnon de voyage d'ailleurs, mais un vrai livre pour tous ceux qui s'intéressent à Tahiti. On dit que la majorité des touristes ne viendront qu'une seule fois dans leur vie en Polynésie, c'est vrai ça?
Ah oui, bah déjà il y a 22 heures d'avion.
Oui, c'est donc déjà pas mal de venir une fois. Oui.
Voilà, c'est très long. Et puis c'est cher, la Polynésie française. Sur place, en plus, vous avez 118 îles, donc seulement 76 habités. Donc, vous allez choisir les îles où vous souhaitez vous rendre. Et effectivement, ça se passe qu'une seule fois en général.
Commençons cet entretien par un son de bateau et une voix tahitienne. Écoutez.
Laranoui 5 et le sourire d'Onanoui Mama, l'animatrice de la croisière.
L'accueil ici en Polynésie, c'est inné et le sourire est là. C'est pas, on va pas dire que c'est une obligation, mais c'est quelque chose qu'on nous a appris depuis l'enfance.
Ce bateau, c'est l'Aranoï qui part vers les îles Marquises, dont vous parlez d'ailleurs dans ce livre, une croisière hors norme sur un cargo qui ravitaille en fait les Marquisiens. Et cette voix qui nous parle de la chaleur humaine à Tahiti, c'est primordial ça. C'est tout de suite ce que l'on constate dès que l'on accoste ou dès que l'on atterrit.
C'est la première émotion en effet. Alors d'abord, la sensation quand on arrive et quand on pose le premier pied à Faa, qui est la ville en fait de l'aéroport, c'est les odeurs. Il y a De Kersauzon qui vit désormais en Polynésie française, qui dit qu'il y a seulement deux aéroports qui donnent cet effet-là, de sentir les odeurs qui viennent soit de la mer, soit de la terre. Il y a Brest, et puis il y a Tahiti.
Il y a Ajaccio aussi.
Ah bon, c'est vrai.
Oui. Bah oui, c'est juste au bord de l'eau.
Mais je vous assure qu'à Tahiti...
Si je peux me permettre.
Oui, sauf que là, c'est une odeur particulière. Oui, quand vous arrivez à Tahiti, ce sont les fleurs que vous sentez.
Vrai, c'est vrai, les fleurs de Tiare.
Voilà.
En Polynésie française, on compte 118 îles, dont 76 habitées, vous l'avez dit. L'île de Rapa, par exemple, l'une des plus isolées de toute la Polynésie. 500 habitants, pas d'aérodrome, pas d'hôtel.
Oui, mais ce sont les plus heureux, a priori. Il y a une étude qui a été faite, justement, sur ces personnes-là, parce que ils vivent tous ensemble, ils vont ensemble à la pêche, ils font tous ensemble, et puis pour décider, il y a 9 sages. Et donc, effectivement, il y a des études qui ont été faites sur ces habitants. On a décrété que c'était sûrement les plus heureux.
Les plus heureux du monde.
Je pense qu'il faut quand même y être né, probablement.
Oui, parce que le climat n'est pas terrible, hein. C'est humide. 20 degrés en moyenne. Non mais par rapport à d'autres îles. Et puis c'est très pluvieux. Parfois il pleut pendant un mois. Vous me direz à Bruxelles et à Paris on connaît ça. Mais il y a aussi des vents violents. Enfin c'est pas ce qu'on imagine.
Non, pas tout à fait. Je pense qu'on parle beaucoup de la pluie parce que justement par comparaison avec le soleil qu'on a toute l'année. Mais non, Rapa c'est comme les autres îles. Alors il y fait peut-être un peu plus frais en effet.
Ouais. Parlons de la bringue. Veitani, vous remerciez dans le livret de votre CD. Je cite les Polynésiens pour leur amour de la musique et de la bringue. Qu'est-ce que c'est la bringue à Tahiti ?
C'est la fête.
Rosane.
C'est la fête et on est tous conviés, donc c'est formidable. D'abord, souvent vous êtes invités et puis on vous dit « ce sera sur la route, un moment tu verras un pareo ». Et donc c'est effectivement à ce moment-là qu'on voit un drapeau s'agiter, un pareo s'agiter et on y va. On y passe beaucoup de temps, on écoute de la musique, c'est très sympa et on partage.
Voilà, de la bringue, on va passer à la nature. On entend en ce moment même la nature tahitienne. Oui, on va parler des coqs, Tahar Benjelloun, dans un instant. Bon, juste avant les coqs, il y a une histoire d'ailleurs sur les coqs. Il est médium, Tahar Benjelloun, il sait ce qu'on va dire dans l'émission.
Non, mais j'ai entendu.
Vous avez
un
mon
coq.
Texte, on vous a donné
non,
mes fiches.
Non, j'ai entendu un coq.
Oui, il y a un coq, effectivement.
Ben oui, bien
derrière.
Sûr, mais je vais inventer, là.
Il y a deux libraires qui ont lu ce petit dictionnaire insolite, Rosane Harris, avec la Belgique et la Suisse. On commence par la Belgique, Annick Dor.
Oui, ben c'est vrai que quand on prépare une émission comme celle-ci et qu'on doit lire en très très peu de temps un dictionnaire, ben soit on le parcourt d'un œil distrait, soit on frôle l'indigestion. Or ici, ben moi j'ai pas du tout ressenti ça. Au contraire, hein, on passe d'un mot à l'autre avec le plaisir de la découverte et du voyage. C'est vraiment très très agréable à lire. On est à la fois dans un guide de voyage avec des conseils avisés, qui donnent envie d'y aller d'ailleurs, et à la fois dans un livre d'histoire, de zoologie, de botanique, de politique, d'ethnologie, etc. Donc ça brasse vraiment très large et c'est passionnant. Donc moi j'ai vraiment adoré ce livre.
Très bien. Dominique Bressoux pour la Suisse, êtes-vous d'accord ?
Oui, mais en fait, déjà j'aime bien la collection du dictionnaire insolite et ce recueil sur Tahiti, ça déroge pas du tout à l'esprit de la collection. Puis comme Annick, c'est vrai que c'est rebutant d'aborder les particularités d'un pays par ordre alphabétique, mais en fait là, ça en vaut la peine. Et puis finalement, Tahiti, ça reste une destination de rêve. Et en refermant ce livre, j'avais vraiment envie d'aller là-bas, goûter, sentir, voir toutes ces merveilles. Mais maintenant, je sais en plus qu'il faut de la lotion insecticide là-bas. Les petites bêtes, elles ont l'air beaucoup plus dangereuses que les grandes.
Alors, puisqu'on est sur cette ambiance de nature, on va parler des petites bêtes. Il n'y a presque pas d'animaux ou d'insectes dangereux à Tahiti, excepté le scolopendre. Évidemment, mille pattes dont la morsure est très, très douloureuse, mais pas fatale. On le retrouve un peu partout, hein, sur les îles tropicales. Même les requins sont plutôt sympathiques.
Oui, les requins pointe noire, on les aime bien.
On nage avec régulièrement. Alors,
ils sont effrayés en plus. Hein. Ce sont plutôt eux qui sont effrayés quand ils nous voient. Et vous pouvez vous mettre dans le lagon même avec, avec votre enfant et les requins pointe noire passent autour de vous.
C'est vrai, personnellement, je surfe là-bas et ça arrive qu'on voit passer une pointe comme ça qui dépasse. Ouais, ça. Mais on sait que c'est des requins pointe noire. Et qu'ils sont, ils sont pas dangereux.
C'est des copains, comme
voilà.
On dit à Tahiti.
Mais bon, on fait quand même attention.
Attention. Alors, le problème, ce sont les moustiques, hein, mais aussi surtout le nono. Le nono que vous décrivez dans votre livre comme étant plus agressif qu'un moustique.
Ah oui, parce qu'on ne le voit pas. Donc c'est pire que le moustique.
C'est un petit moucheron.
Oui, c'est tout petit, on le voit pas, et puis on se réveille le lendemain avec surtout quand on arrive en fait, et on prend pas garde. Tout le monde nous dit mets du monoeil parce qu'il y a la lotion anti moustique, mais c'est très efficace aussi le monoeil.
Oui,
une
on
bonne
peut s'enduire
couche.
De monoeil, exactement.
Voilà, il est pas dangereux au final, mais par contre vous vous grattez tellement qu'à un moment.
C'est très irritant.
Au bout d'un moment, quand je suis allée aux Marquises, j'étais plus jeune, je me suis faite littéralement dévorer par les nonos. Et pendant une semaine, je devais porter des pantalons au collège, me mettre de l'huile de tamanou. C'est une huile un peu cicatrisante et ça peut faire vraiment des plaies carrément. Quoi. Donc,
Alors pour remédier à cela, il y a le margouilla.
Oui,
vous connaissez le cri du margouilla, c'est une sorte de gecko, tarente, comme on dit dans le sud de la France. On a retrouvé le cri du margouilla, écoutez.
Un éclat de rire.
Pas tout de suite au départ, pas tout de suite.
C'est vraiment ça, il fait ce bruit-là.
Oui, mais oui, et au départ vous êtes surpris en fait. Et en plus, il court au plafond. Et puis, par maladresse, parfois, il tombe sur vous.
Ouais, parce qu'il est acrobate.
Mais en fait,
il tente des trucs et puis il tombe, il se casse la gueule.
Voilà. Mais en fait, quand vous vous rendez compte que le margouilla mange les insectes et aussi
il fait
fuir les 100 pieds, parce qu'on ne dit pas 1000 pattes, on dit 100 pieds.
Oui, les 100 pieds.
Ils sont plus modestes.
Et bien, on est heureux de les avoir. Voilà.
Bon, on va partir sur le marché de Papeete. Avant cela, on va écouter le chant du coq, Tahar Ben Jelloun. Écoutez bien ce coq.
Peut-être marocain celui-là.
Non, non, il est haïtien. Et je vais vous dire, c'est un coq qui n'est pas du tout éduqué comme dans la plupart des pays où il chante au lever du jour. Lui, il chante quand bon lui semble, c'est-à-dire tout le temps, même la nuit.
Oui, c'est ça. En fait, ils sont fantastiques, ces coqs. Pas quand on arrive, encore une fois. Parce que c'est la surprise. Ils chantent à toute heure de la journée, mais la nuit aussi. Donc, mais effectivement, de la même façon que le margouilla, on aime bien les avoir parce qu'ils mangent les 100 pieds.
Oui, ils mangent les scolopentes, ce qui est incroyable. Voilà. C'est quand on voit la taille de la bestiole et le venin. Mais bon,
oui,
voilà.
Mais la
le
taille marché, du coq aussi.
Le marché de Papeete, alors c'est là-bas qu'on trouve plein de choses, vous le décrivez dans ce livre. Alors, c'est pas vraiment un guide de voyage, hein, on le disait, mais vous nous apprenez beaucoup de choses sur le monoeil, notamment meilleur soin pour la peau, pour les cheveux, qu'on peut mettre comme ça tous les jours. Et puis, le marché qui est ouvert de 6h à 18h, et le dimanche, c'est le jour de fête. C'est ce qu'on entend derrière, parce qu'il y a des musiciens sur le marché de Papeete à ce moment-là, et le marché est ouvert de 4h à 9h du matin.
Oui, donc au départ, vous le loupez souvent. Et puis, vous vous rendez compte de la fête que c'est, en fait, là-bas. Et vous avez envie d'y aller.
En Polynésie, l'obésité bat des records, Rosanne Harris. 34% des enfants sont obèses. Plus de 40% de la population, tous âges confondus. C'est beaucoup plus qu'aux États-Unis.
Oui, c'est beaucoup plus. C'est moins pire que dans certaines autres îles du Pacifique, surtout chez les enfants.
Comment on l'explique ?
Tout est très sucré.
Vaitani, oui.
Déjà, à la base, tout Polynésien qui se respecte aime manger. Et ensuite, c'est vrai qu'on a été très, très influencé par les États-Unis. Du coup, avec tous les dangers que ça comporte, quoi. C'est-à-dire coca dès le matin, casse-croûte à chiffrite le matin. Ouais. Voilà, bon, quelques déviances, voilà.
Mais manger bien, c'est manger beaucoup en Polynésie française. Oui. Et quand les personnes sont un peu plus fortes, on dit qu'elles sont balèzes. Oui. Et balèzes, c'est la puissance aussi, c'est la force. Oui. C'est pas vu comme en métropole.
Du tout, non. Non.
On va terminer avec le vin, car il y a du vin à Tahiti. C'est l'un des vignobles les plus étonnants au monde. On a retrouvé dans notre boîte à son le témoignage d'un vigneron tahitien. C'était en direct dans l'émission Escale Estivale en France en 2009, émission que j'avais la chance de présenter. Il était 18h30 et nous étions justement en liaison avec l'atoll. Il était sur l'atoll, au milieu des vignes, à l'endroit même où on fait pousser le raisin du vin de Tahiti. Écoutez.
C'était un challenge où tout le monde considérait, que même les professionnels, que c'était impossible. Car en effet, actuellement, il est 6h30 du matin, le jour se lève à travers les cocotiers, la vigne se réveille. Nous venons de terminer nos deuxièmes vendanges de l'année. Nous avons un sol qui est du corail. L'altitude à laquelle est plantée notre vigne est entre 50 cm et 2 mètres d'altitude par rapport à la mer. D'un côté, c'est le lagon, de l'autre côté, l'océan. Une petite bande de corail de 500 mètres, c'est là où nous sommes situés.
Le vin de Tahiti. Qui a goûté ce vin ?
J'ai goûté.
Moi aussi, je trouve génial.
Ah, c'est vrai.
Pourtant, c'est pas un grand vin.
Non,
mais il y a quelque chose de très particulier.
Ah, non. Au départ, il était très exotique, mais désormais, on peut vraiment le proposer et il est devenu bon.
Ah, mais il est très bon. Moi, je le trouve très bon. Tara Benjeloun, vous avez goûté le vin de Tahiti ?
Non, jamais. Non.
Non, vous êtes déjà allé à Tahiti ?
Non.
Bon, ben, il va falloir y aller. Hein.
22 heures, non.
Il y a un seul endroit à Paris qui vend ce vin, c'est du côté des Batignolles.
Mais
c'est difficile. J'ai dit du côté des Batignolles dans Paris, mais c'est difficile de le trouver. Mais c'est un très bon vin aujourd'hui.
Bon, on va chercher ça pour vous, Motard. D'accord.
Merci.
Bien, merci beaucoup, Rosanna Ries. Le dictionnaire insolite de Tahiti est paru chez Cosmopol. Il y a toute une collection avec plein de pays. Et je vous en parle d'ailleurs prochainement dans la pastille vidéo de Twitter. C'est nouveau. Chaque semaine, je vous propose en moins d'une minute trente un conseil de lecture en son et donc en images. Et je vous parlerai donc face caméra de cette géniale collection. C'est le bonus de la librairie francophone. Merci Rosanne, à bientôt.
Merci.
À suivre la chronique des libraires tous ensemble et le roman poignant de Sébastien Ministru. Mais revoici Veïté Annie avec une reprise d'un titre que vous connaissez tous sur des rythmes tahitiens. Tar, ne me regardez pas comme ça. Je vous laisse découvrir et deviner le temps qu'il s'installe. Ukulélé en main. Voilà, c'est fait. Voici Veïté Annie, qui, pour la librairie francophone, interprète Surprise. Écoutez.
Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, moi Singapour, c'est mour, c'est long. Vous, c'est l'eau qui vous sépare, et vous laisse à part, moi, des souvenirs d'enfance. En France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café, léger, vous les mélangez, c'est par une petite enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Tahiti et Tofenua, Hiriti et Teia Uto e Marama, Mio Ia Oe, Tou Ai Ai, comme laissé tout seul en mer, corsaire, sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais pas. Voyez passer des veillants neito, va loua et te amarune, to kuma fatu, to uau. Belle île en mer, Marie galant, c'est mon sang, moi Singapour, c'est mou, c'est lent. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Tahiti et Tofenua, Hiriti et Ofaahei Avotopo et Marama, Miyavo Yahoe, Tou Ai Ai, Tou Ai Ai.
Formidable, Veïté Annie qui reprend Belle Île en mer dans nos studios ici sur Radio Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Et c'est ça aussi le service public, Tara Benjeloun.
Ça, c'est formidable.
Magnifique, hein.
C'est formidable, ouais. Vraiment.
Ouais, c'est ma chanson préférée en plus. Merci beaucoup, c'est un cadeau presque personnel. On est allé à Margalante un jour, fait un reportage, je vais raconter une anecdote très vite, ouais. Avec mon collaborateur Jean-Philippe Véret qui est là derrière. Et je vais chanter cette chanson toute la traversée.
Ah
il
n'en
veut plus. Voilà, merci Veitani, merci infiniment.
Merci.
C'était un grand plaisir. Il faut écouter votre album là, qui est sur ma table, là, juste à côté de moi. Veitani, premier album éponyme, sorti chez Sony Music, disponible aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement légal. Merci, bonne route. À vous.
Merci.
À très bientôt. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble, pour les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec la colère de Dominique Bressoux en Suisse.
Oui, en tout cas, c'est un très très gros coup de gueule sur les grandes surfaces en Suisse qui profitent du fait que le prix des livres n'est pas fixe chez nous et que les remises sont permises quelles qu'elles soient. Ce qui fait que ces grandes surfaces qui souvent vendent aussi tout à fait autre chose que des livres ont une fâcheuse tendance à faire parfois de faux rabais, du genre 20% sur tel ou tel titre, ce qui non seulement fusille les libraires indépendants qui s'en tiennent au prix recommandé par l'éditeur, mais n'est parfois même pas vrai. En effet, si le prix recommandé, par exemple, il est de 21 francs, rien ne les empêche de gonfler jusqu'à 25 sur leur étiquette et de les proposer en solde à 23.
Et c'est voilà, une escroquerie, c'est
un...
quoi.
Un peu, oui, bah oui, on peut le dire.
Disons-le, clairement.
C'est encore une raison de regretter amèrement que le prix du livre ne soit pas fixe en Suisse.
Oui, il faut militer effectivement pour le prix du livre fixe en Suisse, vous avez raison. Au Canada, un coup de gueule également, Marie-Noëlle Blé.
Oui, Emmanuel, un coup de gueule pour les distributeurs qui souvent semblent évaluer de façon trop serrée les quantités qu'ils envoient au Québec et au Canada depuis l'Europe. Le résultat, c'est que ça fait des ruptures de stock de très beaux titres tout juste, disons, 2 semaines après la sortie.
Ah
les
oui.
clients sont évidemment perplexes et nous, les libraires, on est un peu fatigués de devoir dire que le titre est manquant, que ça va arriver par bateau dans un mois.
Bien, effectivement, c'est un vrai souci. Terminons avec deux coups de cœur, si vous le voulez bien. Le premier nous vient de Belgique, Annick Dor.
Oui, un coup de cœur pour l'essai de Michel Goslar qui s'intitule « Yourcenar en images ». Alors, il faut savoir que Michel Goslar, c'est la spécialiste de l'œuvre de Yourcenar ici. Elle a fondé à Bruxelles, il y a une trentaine d'années, eh bien, le Centre international de documentation Marguerite Yourcenar. Alors, dans son livre, elle offre à voir des photos peu connues de la romancière. Elle nous livre aussi des pans de l'enfance de Marguerite, ses voyages, ses rencontres, sa pensée écologique qui était très très moderne pour l'époque. Voilà, donc une façon agréable et instructive de redécouvrir cette grande dame de la littérature.
Bien sûr. Yourcenar en images aux éditions Racine. Merci Annick. On termine avec la France, avec vous, Sophie Todescato.
Oui, c'est un coup de cœur aussi pour un livre qu'a écrit Jean-Jacques Salgon aux éditions Verdier. Ça s'appelle Obok. Obok, c'est un nom de lieu, c'est un port qui est à Djibouti. Et ce livre, c'est un récit de voyage assez merveilleux, très, très bien écrit, un voyage dans le temps et dans l'espace qui s'organise autour de deux personnages. D'une part, Arthur Rimbaud, le Rimbaud d'après la poésie, le Rimbaud négociant, trafiquant. Et puis, un autre explorateur nîmois qui est tombé dans l'oubli, qui s'appelle Paul Soleillet. À la fois, c'est une enquête, il part sur leurs traces, mais il imagine aussi beaucoup, il les imagine bien sûr, tous les deux au bar de l'hôtel de l'univers en train de boire un verre.
Et c'est donc aux éditions Verdier, hein, au Boc. Les éditions Verdier, formidable maison d'édition à la couverture orange.
Oui, orange.
L'objet est magnifique, les textes sont sublimes.
Très beau livre. Ouais,
c'est vraiment, hein, Tara Benjelloun, vous êtes
oui,
d'accord?
Oui, absolument. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est ils vrai. Ont publié de très grands auteurs.
Oui, exact. Très bien. Merci beaucoup, Sophie.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et bonjour Sébastien Ministru.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu. Vous êtes pour la première fois dans cette émission et vous publiez « Apprendre à lire » aux éditions Grasset, un roman très bien construit, poignant, qui raconte a priori une relation père-fils compliquée. C'est sur le tard que le père et le fils vont arriver à s'entendre et à déclencher un peu d'affection.
Oui, mais c'est difficile. C'est très très difficile parce qu'ils sont tous les deux très très... Ils n'ont jamais imaginé leur relation comme une relation, ils ont toujours imaginé leur relation comme une espèce de frottement. Et là, ben, le père va demander au fils un truc complètement inattendu.
Ouais, le narrateur est journaliste, le fils est journaliste. Son père trouve tous les journalistes hypocrites. Il ne se sent pas du tout soutenu par son père, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan affectif. Il y a une distance et peut-être une pudeur qui empêche le rapprochement.
Ah, c'est clairement de la pudeur mal placée. Une relation d'homme, ça doit être ça, ça doit être vraiment un conflit. Et comme, malheureusement, entre eux deux, ben, il y a une femme qui manque pour le père, son épouse, et pour le fils, sa mère, eh bien, ça a été la mort de la mère, en tout cas, et la perte de l'épouse pour le père qu'il a perdu très jeune, et fatalement pour son enfant aussi.
Ouais, c'était trop tôt. Ouais,
c'était trop tôt, et c'est véritablement vécu comme une déflagration, comme une espèce de guerre atomique dans le cœur, quoi.
Alors jusqu'au jour où le père va demander à son fils de lui apprendre à lire et à écrire, car il est illettré. D'origine sarde, il était berger.
Oui.
Alors on va écouter le son du monde de la semaine, Sébastien, une musique habillée d'une voix et un extrait de votre roman, Sébastien Ministru, c'est Tahar Benjelloun de l'Académie Goncourt, qui est notre fil rouge aujourd'hui, notre grand témoin, qui va lire un extrait de votre livre. On lui a donné deux textes, il en a choisi un. Oui, voilà. Il va lire donc celui qu'il a choisi, que je vais découvrir aussi, sur la musique sarde de Maria Carta.
En sortant de chez lui ce vendredi-là, j'ai eu envie de secouer la tête pour y chasser ce qu'il me fallait bien considérer comme une demande. Apprendre à mon père à écrire et à lire, alors qu'il ne m'avait jamais rien enseigné. Je considère que la tendresse que je lui porte, et qui est le résultat d'une longue phase de rééducation, ne peut pas dépasser un certain stade. J'évolue encore dans ce moment où mes sentiments pour lui s'affichent selon une comptabilité pour le moins mesquine et misérable. Comme il avait été d'une totale indifférence à mon égard, du moins, le pensais-je, il ne s'était intéressé ni à mes études, ni à mes amis, ni à mon travail, encore moins à mes amours. J'avais été sans pitié avec lui, qui ne m'avait pas appris à faire mes devoirs, à faire du vélo, à faire du sport, ni quoi que ce soit qu'un père veut transmettre à son fils.
Non posso riposare, amore coro, pensando a pieso d'ogni momento.
Sébastien Ministru, voilà cet extrait, vous êtes très
ému. Merci, oui, écoutez, je ne m'y attendais pas. Mais oui, c'est très très émouvant d'entendre son texte lu par Tahar Benjelloun sur la musique de Maria Carta, oui.
Ouais. Ça a l'air très personnel finalement ce texte, non ? Depuis le début de cet entretien, je vous sens un peu fébrile.
Mais c'est difficile parce que le matériau autobiographique, il est là, en effet, l'histoire du père, qui est une... c'est celle de mon père.
D'accord.
C'est l'histoire d'un enfant à qui on a confisqué le droit d'aller à l'école, puisque mon père a été retiré de l'école quand il avait 6 ans pour devenir berger, parce qu'il a été un enfant berger dans les montagnes sardes. Ses parents l'ont obligé à garder des moutons, et c'est une tradition, je veux dire, c'est une société pastorale.
Et vous avez eu cette distance avec lui, parce que vous êtes journaliste, vous aussi.
Oui.
Vous travaillez dans la presse belge.
Je travaille dans la presse. On a eu ce rapport très difficile de frottement, on va dire. Et puis, j'ai voulu raconter cette histoire-là de mon père, son enfance, confisqués, on va dire, parce que je trouve que ce sont des hommes sur lesquels on ne pose jamais de regard. Après, il y a, sur ce matériau autobiographique-là, j'ai actionné une spirale de fiction qui donne quelque chose qui n'est pas un récit, qui n'est pas un témoignage, j'espère.
Bien, on va laisser la parole à notre libraire canadienne avec Marie-Noëlle Blé et Marie-Noëlle à Montréal.
Oui, ben moi j'ai été totalement charmée par la complexité de la relation père-fils. Par contre, je regrette un peu que l'histoire se fonde dans une espèce de cacophonie où s'entremêlent prostitution, sexualité, monde de l'art. Hein. C'est des sujets connexes ou des contextes qui me semblaient peu nécessaires de creuser parce que pour moi, l'histoire était déjà si riche. J'en suis quand même ressortie avec un avis positif, peut-être moins pour la structure du récit que pour la très émouvante mise en scène de ce consistant duo père-fils.
Alors c'est vrai, Sébastien Ministru, que ce roman va plus loin que cette histoire d'illettrisme. Il évoque l'homosexualité d'Antoine, le narrateur qui, à 60 ans, couche avec des garçons de 20 ans, malgré un compagnon avec qui il vit depuis longtemps d'ailleurs. C'est un peu immoral, c'est un peu immature. Le père aussi va voir des prostituées, le fils aussi, enfin... À quoi ça sert, ça? Effectivement, elle a raison, Marie-Noël.
Non, je voulais que l'histoire du père et l'histoire du fils se rejoignent à un moment donné.
Avec les prostituées
Avec les prostituées, oui, exactement. Je voulais qu'il y ait ce pont-là, on va dire, entre le père et le fils, et, sans qu'il ne s'en doute, évidemment, ni l'un ni l'autre.
Ouais. Et il dit détester, le fils, l'idée de tomber amoureux. Vous écrivez « Tomber amoureux est la pire perte de contrôle. Je n'ai pas vraiment de temps pour ça. »
Parce que c'est un personnage qui est très très froid, qui est assez antipathique, qui est assez dur. Il n'est pas très chaleureux, hein, je veux dire, ce personnage. Le contrat avec les sentiments et le cœur, il sait moins faire.
Vous y arrivez, vous?
Ouais, je sais.
Vous êtes sympathique ou froid?
Je crois que je suis très sympathique.
C'est vrai?
Je crois, mais bon, vous me le direz après.
Bon. Et qu'est-ce qu'il cherche chez les prostituées? Pas vous, vos personnages.
Non, le personnage, il cherche à, il le dit clairement, c'est une espèce d'hygiène physique. Hein, je veux dire, aller faire l'amour avec ces garçons-là, c'est pour garder la tête au-dessus de la surface de l'eau.
Ouais, c'est la liberté, la facilité, quoi.
Ah, ben oui, je veux dire...
C'est l'incapacité à être heureux et à construire une relation amoureuse.
Non, c'est juste...
Vos personnages n'arrivent pas à construire une relation amoureuse.
C'est juste qu'ils payent, et puis voilà, c'est tout.
À quoi ça sert?
Lui, ça lui suffit.
Ah bon?
Oui, ça lui suffit.
Bon, on va voir si en Suisse, ça lui suffit. Avec notre libraire, Dominique Bressou, que pensez-vous du livre de Sébastien Ministru?
J'étais un peu partagée, mais en fait, au début, ce qui m'a frappée, c'était cette brusquerie de l'auteur, le côté presque cynique, en tout cas désabusé. Mais en fait, petit à petit, les trois personnages improbables de ce roman sont de plus en plus attachants et on devine sous les non-dits toute la pudeur, même si elle est mal placée, soi-disant, des relations qu'ils entretiennent. Alors moi, j'ai dévoré cette histoire, mais surtout, c'est le livre à lire par vous, mesdames, pour tenter de comprendre certaines attitudes étranges des taiseux qui nous entourent.
Ouais, enfin, c'est inquiétant, hein, si elle s'appuie sur ce livre-là. Je vais vous donner des conseils, Dominique.
C'est quand même pas un guide de développement personnel,
non plus, hein. C'est une catastrophe absolue, ce bouquin, voilà. Là-dessus, hein.
Oui, je le reconnais. C'est
non,
pas
mais
du
qu'est-ce
tout.
Que c'est que ces idées, Dominique?
Non, mais merci, en tout cas, pour le retour.
C'est une libraire dangereuse avec ses clients.
Ah, dites pas ça.
C'est pas un guide de développement personnel.
Votre maison d'édition va être ravie. On a fait une promo, là, génial. Apprendre à lire, c'est aux éditions Grasset. Merci, Tahar Benjelloun, d'avoir lu un extrait et d'avoir soutenu comme ça indirectement Sébastien.
C'est très, très beau. C'est bien. Ça donne envie de lire le reste, de poursuivre.
Exactement.
Merci, en tout cas.
Merci à vous. Apprendre à lire, donc, aux éditions Grasset. Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse Elle avec un extrait de Tant pis.
Tu sais, moi je rêve être neuve demain, dans le vent, être sève et veuve des chagrins. Souvent je rêve aussi d'ailleurs ou d'autres choses. Je rêve que je suis. Parfum abreuve ton cœur de rose. Tant pis si je nage à contre-courant, et tant pis si je cours trop vite souvent, si j'enrage dans les forêts nues. Si je rage, tu sais, j'espère. Je prie en secret un messie inconnu et j'oublie que les blés jamais n'en ont connu. J'appelle à la rescousse l'enfance au doux sommeil. J'appelle mes soleils. Je danse pour qu'en moi jamais ne s'émousse la joie. La joie. Et tant pis si je nage à contre-courant, et tant pis si je cours
vite souvent, si j'en râle.
Elle avec Tant pis, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. N'oubliez pas le bonus vidéo en ligne tous les vendredis sur Twitter. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Clément Vuillet et Raphaël Rousseau, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Julie Leclerc en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Pud en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons au milieu des animaux dans un zoo atypique avec un reportage sur place au Canada, et l'auteur Lise Tremblay, Jean Tellet, sera lui en plateau avec nous. Bon week-end, bonne semaine à vous, à bientôt, salut.